Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Tout pour investir, la place de l'IMO.
C'est l'heure de l'immobilier. Marie Cœur de Roy est avec nous. Bonjour Marie. Et nous sommes avec notre colocataire du plateau pour cette séquence, Christophe Bauda. Bonjour Christophe. Bonjour. Colocataire parce que littéralement vous êtes directeur général d'une entreprise qui s'appelle Colocataire.
Colocataire, E accent grave R E, je tiens à le dire. S d'ailleurs.
Merci,
je
sais. Marie.
Non, pas de S.
Voilà,
non,
filiale du groupe Finzel. Avec vous, on va avoir une vraie réflexion sur l'évolution de la colocation. Il y a quelques années, la coloc, c'était pour les galériens de l'immobilier, pour ceux, les étudiants surtout, qui n'arrivaient pas à se loger. On se mettait à plusieurs pour avoir un appartement. Et maintenant, ça concerne beaucoup plus de gens, Marie.
Ben oui, en fait, j'ai envie de dire presque que c'est peut-être la solution à la crise qu'on traverse actuellement, en fait, non ? C'est pas un peu l'idée ?
Bah oui, effectivement, vous l'avez noté, c'est un marché qui a évolué, qui évolue. Quand on a commencé, nous, il y a 15 ans, c'était un marché qui était quasi confidentiel, voire inexistant. Et pendant des années, vous l'avez souligné, c'était un marché par défaut, en fait. Les locataires qui venaient nous voir étaient des locataires qui n'avaient pas trouvé de studio ou de petite surface, alors qu'aujourd'hui, les locataires en place, ce sont véritablement des locataires qui ont fait le choix de ce mode de vie en communauté.
Alors finalement, ça va contre ce que je vous disais pour le coup. Parce que moi, j'étais persuadée spontanément que la crise du logement actuel et des difficultés à trouver un logement renforçaient encore plus, j'ai envie de dire, cette envie de coloc, parce que quand on est en colocation, on se dit, je me place pour l'instant du point de vue du locataire, on parlera du point de vue du propriétaire après, mais on se dit peut-être que en termes de coûts, de loyer, ça me reviendra peut-être moins cher et j'aurai une surface plus importante du coup.
Oui, c'est le cas. Oui, c'est le cas, tout à fait, parce qu'on le voit, 71% des gens qui viennent chez nous le font dans un premier temps pour faire des rencontres, et pour 51% le font aussi pour diminuer le budget.
Alors, donc, ils sont plus nombreux, on le refait, à vouloir vivre en coloc pour des rencontres plutôt que pour un enjeu financier.
Non, mais vous êtes une agence matrimoniale, en fait, pas autre chose, là.
Un peu comme l'amour est dans le pré.
C'est l'amour est dans la coloc. Ouais. Mais du coup, pour revenir sur notre... On va rester toujours du point de vue du locataire. Sur la typologie, j'ai envie de dire, de ces locataires, de ces colocataires. Les premières fois où on s'était contactés, il y a quelques années, cela ne nous rajeunit pas, on se parlait beaucoup de l'émergence de nouveaux... coloc. À un moment donné, la coloc, on se disait, c'est les jeunes étudiants. C'est plus que ça aujourd'hui. Hein.
Non, c'est clair. Nous, quand on a effectivement commencé, on avait 90-95% de nos locataires étaient des étudiants de moins de 25 ans.
Ouais.
Clairement, aujourd'hui, en l'espace de 5-6 ans, on a une répartition qui est complètement différente. On est sur du 40-60. Donc, on a 40% de jeunes actifs aujourd'hui dans nos colocs.
Des gens qui travaillent.
Oui, des gens qui travaillent, des jeunes actifs. Et au niveau national, c'est du 50-50.
Comment vous expliquez ça, justement ? Est-ce que c'est toujours cette quête d'être avec d'autres gens, ce que vous nous disiez, sur faire des rencontres ? Ou est-ce que là encore, c'est symptomatique de problématiques de logement, y compris pour ces jeunes actifs qui travaillent, qui ont des revenus ?
Oui, je pense que c'est une problématique d'attente en termes de loyer, mais aussi de niveau de confort. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, ce qui fait la différence aujourd'hui et ce qui attire les jeunes actifs, c'est le niveau de confort qu'on peut proposer. Ça, c'est hyper important.
Qu'est-ce que vous entendez par niveau de confort, justement ?
Oui, c'est pour ça qu'on s'est positionné sur le marché de la colocation haut de gamme. L'idée, c'est qu'on propose systématiquement, nous, des chambres avec une salle de bain individuelle et un WC. Quand techniquement c'est faisable. Donc ça c'est véritablement important.
Moi c'est ce qui m'avait séduit il y a quelques années quand j'ai été contactée. Alors j'étais déjà plus en âge d'être coloc, encore moins aujourd'hui, mais effectivement ce qui m'avait toujours rebuté plus jeune, c'était l'idée effectivement de partager les sanitaires, de partager la salle de bain, de me bagarrer avec des colocataires. Là en l'occurrence ce que vous faites, c'est que vous faites finalement du co-living. Mais en version old school, j'ai envie de dire.
Oui, limite de l'appart hôtel, parce que ce qu'on ressent nous vraiment chez nos locataires quand ils viennent nous voir, c'est qu'ils recherchent un espace intime, très confortable, et en même temps ils veulent bénéficier des avantages de la communauté en fait.
Ouais.
Donc il est là.
Oui, bon après le problème c'est qu'encore faut-il que le logement soit adapté. On va se placer maintenant du côté du propriétaire. Comment je fais quand je suis propriétaire et que j'ai un bien immobilier pour l'adapter à la colocation, mais pas à n'importe quelle colocation, à la colocation versus colocataire accent grave.
Bon, j'ai juste un conseil à vous donner. Si vous voulez le faire vous-même, ça va être, à mon sens, un peu plus compliqué. C'est l'idée, si j'ai vraiment un conseil.
Bah, en même temps, vu votre job, vous n'allez pas nous dire autre chose.
Ouais, ce que j'allais dire.
Passez par moi.
Non, mais faites-vous accompagner, très honnêtement, pas forcément pour parler de la prestation qu'on peut apporter, encore que. C'est hyper important. Je veux dire, il y a un tel niveau de transformation, il y a un tel niveau d'ingénierie, on imagine, enfin vous imaginez pas le temps qu'on passe pour essayer de transformer et d'adapter la base technique pour pouvoir y mettre 5 salles de bain par exemple. Mmh. Et puis à ça, vous rajoutez les contraintes liées au DPE. Mmh.
Alors, justement, on va rentrer dans le détail. Ça tombe bien, on a le temps. Donc comment D'accord. vous faites pour adapter ce logement? Qu'est-ce que vous allez faire? J'ai envie de dire, on va y aller vraiment, on va être pratico-pratique. Déjà, quelle surface il me faut pour faire de la coloc? J'imagine que dans 20 mètres carrés, ça va être compliqué. Donc voilà, est-ce qu'il y a une surface minimale qui permettra à mon bien d'être adapté en colocation? Qu'est-ce que vous allez faire? Combien ça va me coûter? Enfin, dites-nous clairement, si moi je suis propriétaire et que j'ai besoin de vous, qu'est-ce que vous allez faire et comment vous allez pouvoir transformer ce bien immobilier?
Et je rajouterai une question, si vous avez tout retenu, c'est est-ce qu'il y a un chiffre idéal de colocataires dans un appartement?
Alors, je réponds à celle-là. Ce qu'on constate, c'est qu'en moyenne, ce qui fonctionne bien en colocation, ce sont des colocations de 3-4 chambres. Mmh. Voilà.
Donc 3-4 personnes.
3-4 personnes, oui. Et après, pour répondre à votre question, Marie, très clairement, déjà une colocation, c'est à partir de 2. Donc, quand on imagine la manière dont nous, on le transforme, il faut au minimum 45-50 mètres carrés pour pouvoir y adapter 2 salles de bain, enfin 2 chambres, 2 salles de bain, et avoir une pièce de vie qui soit correcte.
Voilà. Mais ça, c'est partout possible, appartement-maison. Enfin, maison, ça me paraît plus simple.
C'est évident.
Mais...
On peut faire de la colocation partout en France. Voilà, très clairement. Dans les centres-villes, on peut en faire en campagne, il n'y a pas de souci. Maintenant, la seule contrainte, c'est qu'effectivement, est-ce que le bien s'y prête techniquement pour qu'on puisse adapter notre concept? C'est hyper important. Si vous avez des murs porteurs partout, à un moment donné, on ne pourra jamais le transformer. Donc, on peut partout. Maintenant, techniquement, il faut valider que ce soit faisable.
Et ça me coûte combien, moi, en tant que propriétaire?
Tout va dépendre de l'état du bien initial. Donc je peux pas vous donner d'ordre de valeur, de volume de travaux, parce que en fonction de l'état dont on va acheter le bien, on ne sait pas si c'est un bien qui est dégradé, on ne sait pas si justement en plus maintenant il est badgé G. Donc là, c'est encore d'autres contraintes et donc d'autres niveaux de travaux et donc un autre prix en fait.
Oui, mais par exemple, typiquement de vos clients propriétaires, vous en moyenne, vous réalisez combien de travaux à peu près en gros?
En volume de chiffre d'affaires.
En argent, les propriétaires qui passent par vos soins, combien ça leur coûte de faire adapter l'adaptation de leur logement à votre modèle colocataire?
Alors, en moyenne, sur les colocations, on est à 110 000 euros.
Ah ouais?
Ouais.
Ah oui, c'est pas un petit coup, c'est pas du home staging là. Hein.
Ah non, c'est pas du home staging.
Mais on
non.
parle en même temps d'appartement quasiment familial, enfin ouais, tout à fait familial, ouais, à transformer. Quand vous nous dites qu'il faut mettre 5 salles de bain dans un appartement où il y a 5 chambres.
C'est une évidence que vous allez travailler sur une base de 100 mètres carrés, au moins pour mettre 5 chambres et 5 salles de bain. Donc oui, forcément, vous rénovez tout.
Mais du coup, les propriétaires bailleurs qui passent par vous, est-ce qu'ils le font que d'un point de vue ponctuel parce qu'ils se disent « ça c'est l'avenir de ce bien immobilier, c'est mon avenir à moi » ou est-ce que derrière il y a des enjeux aussi de valorisation du patrimoine? Vous parliez des DPE, des notes. Vous faites un package, j'imagine. Donc c'est compliqué de se dire « je vais dépenser 100 000 euros dans l'adaptation d'un logement qu'il faudra que je potentiellement réadapte plus tard ».
Non, c'est pas compliqué en fait. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, à partir du moment où vous décidez de vous lancer sur ce modèle-là, vous savez très bien que vous allez avoir un volume de travaux et un niveau de transformation qui va être important.
Ouais.
Et à partir du moment où vous prenez la base de votre appartement, vous la rasez complètement, très honnêtement, autant en profiter pour répondre aux contraintes des DPE.
Ouais, bien
donc,
sûr.
Oui, j'ai tendance à vous dire que l'avantage de notre modèle, c'est qu'à un moment donné, il va vous amener à répondre plus facilement aux contraintes des DPE. Donc voilà, oui, ça va permettre de valoriser sur le temps.
Mais donc typiquement, par exemple, là, en ce moment, on sait qu'on a beaucoup de vendeurs pressés, de vendeurs de passoires. Est-ce qu'il y a des opportunités d'acheter, j'ai envie de dire, pas un taudis, mais presque, ou en tout cas, un bien immobilier très mal noté en termes de DPE et avec beaucoup de travaux à faire et passer par vos soins et pour le peut-être potentiellement l'acheter moins cher.
Oui, c'est ça. Le premier avantage, il est là. C'est clairement, on le sent, dès qu'on veut se positionner sur un produit qui est classé G, vous avez une pression à l'achat qui est beaucoup plus importante parce qu'aujourd'hui, il y a une véritable crainte des vendeurs qui se disent « Mais qu'est-ce que je fais dans quelques années ?» Soit je réalise les travaux nécessaires et il va falloir que j'engage un certain montant de travaux. Soit à un moment donné, il faut que je le vende. Et vous savez que c'est toujours plus simple pour nous d'acheter quand vous vendez dans la précipitation.
Mais du coup, si je prends en compte ça, c'est-à-dire je vais acheter un bien à prix décoté, je vais en avoir pour quand même beaucoup de travaux pour adapter mon bien à la colocation. Mais la question, c'est la rentabilité à la clé. Donc, on en vient au modèle de la coloc et votre modèle en particulier. Est-ce que moi, propriétaire, je rentre dans mes frais? Si oui, à quelle échéance?
Oui, bien sûr. Vous prenez, on va prendre un exemple simple pour comprendre. Vous prenez un appartement sur Reims, 100 mètres carrés. C'est quelque chose que vous allez louer à une famille entre 1 000 et 1 200 euros en meublé.
D'accord.
Ce même appartement-là, moi, je vais le prendre. Je vais faire une colocation 5 chambres, 5 salles de bain, 3 WC. Effectivement, l'enveloppe engagée au départ pour les travaux, elle est plus importante. Mais derrière, au lieu de louer 1 200 euros, je vais louer 2 250 euros.
Ah ouais.
Voilà, elle est là la différence, en fait.
Donc l'enjeu pour un propriétaire, c'est aussi de louer beaucoup plus cher.
Bien sûr, il y a le premier levier qui est économique, c'est certain, ouais.
Et c'est pas encadré, les loyers sur la coloc, ça se passe comment?
Si, dans certaines villes, oui, ça se passe plutôt bien.
Mais comment ça se passe, du coup, l'encadrement des loyers? Ça m'intéresse, ça, pour le coup.
Alors, comment ça se passe? C'est-à-dire, à quel niveau?
Ouais, comment j'encadre? C'est-à-dire que c'est mon loyer global que je vais percevoir au niveau de tous les colocs ou c'est le loyer individuel qui va être plafonné?
Alors, c'est le loyer de la colocation qui est plafonné. D'accord.
Donc, je ne peux pas faire tout et n'importe quoi, même si j'ai 5 colocataires.
Vous ne pouvez pas faire tout et n'importe quoi. Maintenant, c'est quelque chose qu'on a appréhendé, sur lequel on sait travailler. Et là-dessus, on n'a pas de problème. Hein. Quand il faut adapter et appliquer un complément de loyer parce qu'on a des critères d'équipement exceptionnel ou des critères de confort exceptionnel, eh ben, on le fait.
C'est la fameuse marge de 20% supplémentaire par rapport...
C'est pas ça. Ça, c'est c'est pas ça. Véritablement, le complément de loyer, c'est ce qu'on a le droit d'appliquer dans le loyer, justement pour déplafonner le plafonnement de loyer.
Oui, mais c'était pas 20% de plus dans les caractéristiques exceptionnelles par rapport au plafond des loyers?
Vous avez encore le complément qui vous permet de déplafonner.
Oui. D'accord. Sauf qu'est-ce qui rentre dans la catégorie exceptionnelle comme équipement? Pourriez-vous nous donner quelques exemples?
Oui.
Les toilettes
je pense effectivement le niveau de confort qu'on vous expliquait. C'est-à-dire que toutes nos colocations ont une salle de bain, un WC.
Un WC par salle de bain dans une colocation de 5, ça c'est exceptionnel?
C'est pas courant en tout cas.
À Paris en tout cas, oui, clairement.
Même en province, hein, c'est pas forcément courant. Et puis le niveau d'équipement qu'on met dedans. C'est-à-dire que quand vous parlez des 11 critères du meublé, bon, on va beaucoup plus loin. On va vraiment jusqu'à la petite cuillère, on a des enceintes, on a des frigos SMEG, on a de beaux canapés, on a des télés dans chaque chambre. Donc effectivement,
ouais, c'est la coloc haut de gamme. Hein,
voilà, on peut véritablement valoriser les équipements qu'on met dedans.
Christophe, pour retoucher un mot de rentabilité que Marie, sur laquelle Marie vous sollicitez, est-ce qu'il y a des villes où c'est plus rentable d'animer des colocs? Est-ce qu'on pense que quand même les villes avec un tissu étudiantin dense, c'est intéressant? Est-ce que des zones où les jeunes professionnels s'installent sont bien identifiés, ou est-ce que c'est très rentable de faire de la colocation?
C'est plus sécur, pour répondre à votre question, de le faire dans les villes où il y a un très gros potentiel, où les zones sont tendues. Vous êtes sûr qu'à un moment donné, vous aurez un taux de remplissage qui soit très bon. D'accord? Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, on peut effectivement l'adapter partout.
Mais du coup, je rejoins la question de Lorraine. Est-ce que vous avez vu une évolution? Comme vous le dites, ça fait un petit paquet d'années que vous êtes sur le marché. On a beaucoup parlé, notamment au moment du Covid et en post-Covid, de villes qui étaient peut-être un peu moins attractives fut un temps et dans lesquelles sont nés des marchés locatifs qui n'existaient pas auparavant. Mmh. Est-ce que vous-même, vous avez constaté que des villes qui n'étaient pas forcément très adaptées à la coloc le sont devenues dans le temps là, et d'autres moins? À l'inverse, d'autres qui étaient très adaptés à la coloc qui ne le sont plus trop aujourd'hui. Enfin voilà, en gros, est-ce que vous pourriez citer quelques noms de villes intéressantes et quelques noms de villes peut-être à éviter sur ce marché de la coloc?
Oui, alors à éviter, je ne sais pas, parce que véritablement, quand on a créé un modèle de colocation. Donc, à partir du moment où il est bien situé, vous prenez une ville comme Saint-Etienne.
Vous citer Saint-Etienne et Limoges. Mais les villes les moins chères, les grandes villes les moins chères de France. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire de l'investissement locatif dans ces villes?
Honnêtement, on est arrivé sur Saint-Etienne il y a 3 ans maintenant. On a un taux de remplissage supérieur à 90%.
Ah ouais?
Ouais, il n'y a pas de souci, mais c'est plutôt bien placé. Il y a un très bon niveau de confort. On n'a pas non plus submergé la ville de colocation, mais à partir du moment où l'emplacement est bon, que vous avez un bon niveau de confort, il n'y a pas de souci sur le fait d'en faire. Demain, je vous dirais pas la même chose si on devait faire 300 colocations de 5 chambres sur une ville de Saint-Étienne. Voilà, je pense qu'il faut savoir le raisonner. Et en plus, c'est quelque chose qu'on a diversifié, c'est-à-dire des villes où on sent qu'il y a un peu trop de colocations. On a développé une offre qui nous permet d'apporter ce même accompagnement auprès de nos investisseurs sur des plus petits produits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait plus que de la colocation. On intervient aussi sur les petites surfaces, c'est-à-dire du studio au T2, avec le même niveau d'accompagnement et le même niveau de confort.
Ouais. Christophe, le mot de la fin, c'est peut-être sur votre business model, parce que quand on est propriétaire et qu'on veut passer par vos services, vous rémunérez de quelle manière ?
Alors nous, très simplement, on monte un projet, on a le prix de l'immeuble, on a le prix des travaux, on a le budget décoration, on a les frais de notaire, et ensuite on en facture des frais d'ingénierie. Voilà.
Mais donc, votre business model, c'est quoi ? Vous prenez un pourcentage sur l'ensemble de ces frais ? Vous
prenez on prend un forfait d'ingénierie sur l'opération.
Un forfait d'ingénierie, ça veut dire quoi très concrètement avec
des veut dire que globalement, ça va de 10 à 17 000 euros sur ce qu'on peut facturer à nos clients.
D'accord, donc un prix fixe défini en amont, en amont de l'ensemble des services que vous allez...
Et de la taille du projet.